Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter. L'instant M vous emmène vite et loin.
Vous êtes en direct, allez-y.
Qui a tué Rémi Hochelig, photographe indépendant de 28 ans, parti pour Paris Match en Syrie, pris sous les bombes du centre de presse où il dormait le 22 février 2012 à Homs. Il venait de recevoir le World Press Photo, prix immensément prestigieux. Son corps, déchiqueté, a été retrouvé sous les décombres, celui d'une grande reporter de guerre américaine, Mary Colvin aussi. Le quartier de Baba Amrar, baston des rebelles, cerné par les chars de l'armée syrienne, fut leur tombeau. Reste à savoir si ces journalistes furent sciemment assassinés. Reste à savoir si leurs bourreaux rendront un jour compte de leurs crimes face à la justice.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Émilie Blacher.
Bonjour Sonia.
Soyez la bienvenue, vous êtes reporter vous aussi à Paris Match. Rémi Hochelig était l'homme que vous aimiez, il n'était pas seulement un confrère de la rédaction, il était aussi l'homme que vous aimiez. Vous publiez chez Plon Une fleur sur un cadavre, c'est une longue enquête consacrée aux chasseurs de preuves. Les chasseurs de preuves, c'est un monde extrêmement mystérieux et minutieux que, que vous pénétrez. Ce sont ceux qui traquent les dictateurs et les généraux dans l'espoir de les traduire un jour en procès. Ce sont ces hommes et ces femmes de l'ombre qui vont vous conduire à répondre très précisément à cette entêtante question. Qui a tué Rémi Hochelig? On va en parler dans quelques minutes. Quelques minutes, je le dis, parce que nous sommes mardi et que les mardis en série de Romain Nigita. Salut Romain.
Bonjour Sonia.
Vous propose, Émilie, un petit détour américain. D'abord, on va parler du PAF. Alors, le groupe Canal+ a lancé une nouvelle chaîne il y a 2 semaines. Elle s'appelle Polar+. Ça, c'est un très très gros événement. Elle a été créée dans un seul but, remplacer purement et simplement 13e rue. Donc, c'est une chaîne qui a disparu, 13e rue, Romain?
Elle n'a pas disparu. Elle est maintenant en exclusivité pour les abonnés d'SFR.
C'est ça. Donc il fallait
il
fallait remplacer tout ça. Canal D dégaine donc sa propre chaîne spécialisée dans les histoires de gendarmes et de voleurs, au menu des séries inédites bien sûr, mais vous n'en entendrez pas causer parce que manque de bol, Polar Plus rediffuse New York, Police Blues et Romain Nigita. C'est sa cam.
Et il était temps qu'on la revoie cette série, puisque depuis sa première diffusion en France sur la chaîne du câble Canal Jimmy à partir de 1994, on ne l'avait plus guère revu. Alors il avait bien eu un passage sur France 3, mais c'était réservé aux insomniaques. Et sur 12 saisons, seulement 4 sont sorties en DVD en France, d'où le caractère exceptionnel de cette nouvelle rediffusion.
Alors, d'accord, nous on aimerait bien savoir pourquoi exceptionnel et en quoi NYPD Blues, hein, c'est comme ça que disent les aficionados, etc. En quoi est-ce qu'elle est quand même très différente des milliers de séries sur les milliers d'enquête de milliers de flics qu'on a déjà vu à New York?
Alors je pourrais vous parler de la mise en scène avec ces mouvements de caméra ultra mobiles qui reproduisent le regard des détectives sur les scènes de crime. Je pourrais aussi vous parler des dialogues qui ont repoussé au maximum les limites de la censure sur les chaînes RTL américaines. Ah oui, il y a des fucks et des jurons, mais ils avaient une liste très précise. Mais si la série de Steven Bochco et David Milch a marqué un tel tournant dans l'histoire de la télévision américaine, c'est que bien avant Les Sopranos et Breaking Bad, son personnage central est un anti-héros, un vrai, un flic nommé Andy Sipovitz, alcoolique, raciste, homophobe, violent. Il fréquente les prostituées et il maltraite les suspects.
Attends un peu, macaque. T'as pas envie d'un dessert maintenant? Tiens, avale ce dessert. Je vais te faire bouffer mes chaussettes. Alors ça te suffit ou tu veux autre chose de plus épicé, hein? Un petit pouce café? Est-ce que ça te dirait ta perruque? Tiens, bouffe-la, bouffe-moi ça. Tu pensais que t'étais mieux que moi, hein? T'étais plus malin.
Voilà, et on se demande comment une ordure pareille a pu devenir le héros d'une série en 1993.
Eh bien, c'est par accident. Au départ, le héros de la série, c'est son partenaire, John Kelly, un jeune flic torturé, incarné par David Caruso.
Le Caruso des experts, là?
Le même, celui qui était totalement inexpressif dans les experts Miami.
Nul.
Nul complètement, avec ses lunettes. Mais dans New York Police Blues, il était magistral.
Ah bon?
Mais tellement qu'il a quitté la série avec perte et fracas au bout d'un an pour tenter sa chance au cinéma. Monumentale erreur, il s'est complètement planté. Et durant les 11 saisons suivantes, c'est Sipovitz qui reste le cœur de la série, le taulier. Et toute la série retrace en fait sa difficile rédemption.
Tu crois pas que tu devrais arrêter?
Que je devrais arrêter quoi?
Ça, tu te torches tous les après-midi maintenant.
Dis donc toi, quand j'aurai besoin qu'on me fasse un serment, je ferai appel à toi. Pour l'instant, tu me gonfles.
Depuis quand tu n'es pas allé voir un toubib, bandit?
Oui, et toi, depuis quand tu joues les perles à morale?
Alors le premier épisode de la série laisse le personnage sur le carreau après s'être fait tirer dessus. Au fil des années, ses collègues et ses proches vont mourir de manière atroce. Rien ne lui sera épargné, car New York Police Blues, c'est bien plus que des enquêtes de flics, c'est surtout l'impact de leur travail sur leur vie privée et sur leur mental.
Voilà, et évidemment, derrière un grand personnage, il y a un grand, grand acteur. Alors, qui incarne Andy Sipowicz ?
C'est Dennis Franz, qui a trouvé là le rôle de sa vie après de nombreux seconds rôles chez Brian De Palma.
C'était déjà pas mal, hein ?
C'était déjà pas mal, mais là, avec New York Police Blues, il a reçu 4 Emmy Awards. Il est d'ailleurs en quasi-retraite depuis la fin de la série. C'est sans doute le sentiment du devoir accompli.
Et puis, de toute façon, il a tellement cogné et tellement picolé qu'à mon avis, il n'a plus la force de faire grand-chose. NYPD Blues pour les aficionados sur Polar Plus. C'est du lundi au vendredi. 3 épisodes à la suite à partir de 17h05. Donc, c'est à regarder en sortant du lycée, en fait, si je comprends bien.
Exactement.
Merci Romain. À mardi prochain.
L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Émilie Blacher, notre consoeur de Paris Match, est mon invitée ce matin. Je redis leur nom à tous. Édith Bouvier, qui est journaliste au Figaro. Enfin, à l'époque, elle travaillait pour le Figaro. Le photographe William Daniels, Javier Espinoza de El Mundo, des Espagnols. L'équipe du Sunday Times britannique, Mary Colvin, grand reporter américaine, Paul Conroy, son photographe, et Rémi Hochelick, votre compagnon, pris sous les bombes à Homs. Lui, il meurt sur le coup. Sa consoeur américaine aussi. Question à Bachar El Assad, avez-vous sciemment visé ces journalistes ?
Did your forces target Marie Colvin and her colleagues with an intention to kill her?
No, very simply, first of all, the army forces didn't know that Marie Colvin existed somewhere, because before that we hadn't known about Marie Colvin. So it's a war, and she came illegally to Syria, she worked with the terrorists, and because she came illegally, she's been responsible of everything that befall on her.
Je crois qu'on avait envie de vous faire entendre cet extrait dans sa langue originale, hein, sans le doubler, parce que je pense que le demi-sourire qu'il y a dans la bouche du dictateur syrien en dit long aussi. C'est voilà l'intonation de cette voix. En gros, Bachar el-Assad répond écoutez, elle était entrée illégalement dans le pays, elle était en lien avec des terroristes, elle est donc responsable de ce qui lui est arrivé. Alors, on vous invite aujourd'hui, Émilie Blacher, pour ce livre « Une fleur sur les cadavres ». Il vous aura fallu une longue, très longue enquête dans plusieurs pays du monde, un livre de 277 pages pour en arriver là, à ce dernier chapitre méthodique, factuel, implacable, terrifiant. Jour après jour, vous déroulez la chronologie et les mécanismes de ce qu'on appelle une décision d'État qui s'est traduit par ce bombardement du 22 février en 2012 à Homs. Aujourd'hui, vous êtes en mesure de détailler le fait que, oui, le régime de Bachar el-Assad a voulu éliminer des journalistes, a voulu éliminer les témoins gênants de ce à quoi il procédait à Homs à cette époque-là.
Oui, exactement. En fait, le but de ce livre, c'était de finalement comprendre ce qui s'était passé. Rémi est mort il y a bientôt 6 ans, en l'année prochaine. Et j'ai pris le temps d'écrire, j'ai pris le temps d'enquêter, j'ai pris le temps d'être moins triste également, pour exactement savoir ce qui s'était passé et savoir qui avait tiré sur cette fameuse maison. Donc c'est une enquête qui m'a pris pas mal de mois. J'étais en contact avec les avocats de Marie Colvin, les avocats de Rémi, les avocats d'Edith, qui ont enquêté pendant plus de 3 ans et qui ont pu m'expliquer, limite, minute par minute, ce qui avait abouti à la mort de mon compagnon. Et j'ai voulu le retranscrire dans ce livre parce que je pensais que c'était extrêmement important de ne pas oublier qu'ils avaient été assassinés et de ne pas oublier qu'ils avaient été assassinés par le régime de Bachar el-Assad.
Absolument. Le ministre de la Défense, ils sont repliés dans un quartier qui s'appelle Baba Amar. Je ne sais pas c'est comme ça qu'on le prononce. C'est l'un des quartiers de Homs. Oui. C'est un bastion rebelle. Il est encerclé par les troupes syriennes. Il va être bombardé avec un acharnement sans précédent. Et en même temps, le ministre de la Défense, racontez-vous, reconnu qu'il aurait pu détruire ce quartier en 10 minutes s'il n'y avait pas les caméras. Donc la présence des journalistes est un problème et vous en avez des preuves.
Oui, la présence des journalistes est un problème en fait, parce que c'est vrai que c'est un petit quartier de rebelles où les civils sont déchiquetés par les obus, c'est encerclé par l'armée qui tire jour et nuit. Et puis il y a les journalistes, et notamment il y a l'équipe de Marie Colvin, donc le Sunday Times. Et donc Marie Colvin arrive à sortir des reportages. Donc elle fait plusieurs interviews à la télévision. Elle dénonce en fait ce qui est en train de se passer sur place. Ça, c'est la veille de la mort de Rémy. Et le problème, c'est qu'en faisant ces fameuses interviews, ils sont repérés, en fait, par les services secrets.
Alors, si vous voulez, nous, on a retrouvé
Bachar,
une de ces interviews.
Oui.
En effet, elles ont été données par téléphone par Marie Colvin, depuis ce centre de presse, via trois paraboles satellites, c'est ce que vous racontez, à des médias que sont Channel 4, BBC World, en Angleterre, et CNN.
Et CNN.
On entend la voix de Marie Colvin parce que, en fait, c'est la dernière fois qu'on
c'est
l'entend.
La dernière fois qu'on l'entend.
Vivante.
That's the reality. These are 28,000 civilians, men, women, and children, hiding, being shelled, defenseless. That baby probably will move more people to think, what is going on, and why is no one stopping this murder in homes that is happening every day?
Là aussi, hein, on a choisi de vous diffuser cette voix en anglais dans sa langue originale. C'est la dernière fois qu'on entend Marie Colvin vivante, juste avant que la bombe détruise le centre de presse. Simplement, elle est au téléphone et elle dit « Voilà pourquoi c'est urgent, important et crucial de vous montrer ce qui se passe autour de nous, de vous montrer la façon dont ce quartier est détruit. » On peut dire un mot de cette femme que vous, les journalistes, vous appeliez la pirate.
Oui.
Parce que c'est quand même un personnage assez
incroyable. C'est un personnage incroyable. C'est une femme avec un charisme incroyable, qui a une carrière je veux dire vraiment d'ailleurs c'est une des plus grandes reporters de la planète, et c'est une femme avec une pugnacité, une ténacité juste exemplaire.
Voilà.
Et il faut
elle
savoir
elle porte un bandeau de pirate
parce qu'elle a été blessée au Sri Lanka. Et en fait elle sort du pays à un moment donné et elle décide de re-rentrer parce qu'elle estime que la situation est totalement ingérable et qu'il faut absolument en parler dans les médias.
C'est ça, c'est ce que vous racontez, c'est-à-dire qu'elle et son équipe réussissent à se replier à la frontière libanaise, mais en même temps ils ont réussi à transmettre leur reportage. Et le fait que les reportages soient sortis, ça met en furie le général qui est responsable des opérations à Homs.
Exactement, donc quand elle rentre, elle ne le sait pas, Rémy encore moins, mais ils sont déjà la cible du régime.
Voilà, ils sont suivis, ils sont espionnés.
Exactement.
Ce coup de téléphone qu'on vient d'entendre, finalement, va signer leur arrêt de mort parce qu'il est géolocalisé, tout simplement.
Il est géolocalisé, mais pas que. Il y a aussi des témoins oculaires, notamment une femme qui dénonce leur localisation au régime syrien. Donc ça permet, en effet, au général, de recouper les informations et de prendre la décision dans la nuit du mardi au mercredi de cibler la maison à l'aube, et donc les premiers bombardements commencent à 8h20.
Voilà. Je renvoie évidemment les auditeurs vers votre livre qui paraît chez Plomb, parce que ce bombardement en 5 tirs de roquettes, ben voilà, vous le décrivez avec une précision que de toute façon on peut pas raconter ici à la radio. Il faut avoir le courage de lire ces trois pages. Est-ce qu'on peut dire encore un mot? Qui est Maher al-Assad? Parce que ça fait partie des figures qui reviennent dans votre livre.
C'est le frère en fait de Bachar al-Assad. C'est celui qui aurait pu prendre sa place, car il était de formation militaire, mais c'est un homme aussi qui est colérique, sanguin, et que son propre père a voulu écarter quand même du pouvoir pour laisser Bachar à la place, qui était soi-disant beaucoup plus doux, beaucoup plus
De Maher,
généreux.
Le frère, vous dites carrément que c'est un psychopathe, un voyou sanguinaire,
assoiffé
de sang, un tortionnaire, c'est quelqu'un qui est redouté dans toute la région.
Oui. Exactement, je confirme.
Voilà, Maher al-Assad qui offrira donc des voitures de luxe
à ceux qui ont réussi à cibler et donc à tuer les journalistes.
Voilà.
Et c'est vrai que finalement, je pense qu'ils voulaient tuer toute la maison et qu'ils ont réussi à en tuer seulement deux, c'est-à-dire Rémy et Marie, mais que le but était quand même d'anéantir et les activistes et les journalistes qui étaient présents à l'intérieur.
On écoute Nicolas Sarkozy à l'époque, président de la République.
Il semble que nous puissions récupérer la dépouille de Rémy Hochnik, nous mettons tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Par ailleurs, avec Alain Juppé, nous avons décidé de fermer notre ambassade en Syrie. Et je voudrais dire de la façon la plus solennelle que les autorités syriennes auront à rendre des comptes devant les juridictions pénales internationales de leurs crimes.
95% des crimes contre les journalistes dans le monde restent impunis, écrivez-vous, Émilie Blacher, selon les Nations Unies. Vous avez trouvé cette donnée. Pourtant, votre livre s'intitule « Une fleur sur les cadavres ». Il est né d'une demande du patron de la rédaction de Paris Match, Olivier Royan, et de son adjoint. En fait, on ne vous a pas demandé de retracer ni d'enquêter sur la mort de Rémy Hochnik, qui pourtant manque cruellement aujourd'hui aussi à toute la rédaction. On vous a demandé d'enquêter sur les chasseurs de bourreaux, et pour être plus précis, sur les chasseurs de preuves. Et Et vous dites bien que vous pénétrez un monde occulte, opaque, où tout est régi par la méfiance et la discrétion.
Oui, en fait, c'est le hasard, voilà, mais Olivier Royan, Régis Le Sommier m'ont demandé de travailler là-dessus. À l'époque, on en était à quasiment 500 000 morts. Mm-hmm. On avait fait une soixantaine de reportages en Syrie et en Irak sur les événements qui se passaient là-bas. Et puis, ils m'ont demandé tout simplement, mais est-ce qu'un jour les victimes seront devant un tribunal et pourront juger leur est-ce que la justice pourra juger ces bourreaux? Donc je me suis lancée dans cette enquête et j'ai atterri dans un monde totalement obscur, totalement mystérieux, où il a fallu quand même trier les informations parce qu'il y avait énormément de manipulation.
Eux-mêmes d'ailleurs sont très aguerris en la matière, hein, parce que eux aussi se méfient de tout ce qu'on leur raconte et de tout ce qu'on leur montre.
Exactement.
Ce sont des gens qui documentent de la manière la plus technique qui soit tout ce qui peut être compromettant, tout ce qui peut ressembler à un crime de guerre.
Exactement, parce que la collecte de preuves est très importante. Mm-hmm. Parce que si elle est mal faite, elle n'est pas recevable devant le tribunal. Donc, il ne faut pas risquer sa vie pour rien. Donc, l'idée, c'était de rencontrer ces gens-là et de comprendre leur métier. Et en fait, j'ai découvert un monde absolument passionnant, avec des gens extraordinaires.
Des juristes, des militaires, des universitaires de toutes les nationalités. Oui. Et d'ailleurs, vous le dites, leur nombre est un mystère, évidemment,
comme
la plupart d'entre eux agissent de manière extrêmement discrète. Vous nous faites découvrir dans votre ouvrage à la fois des fondations, des institutions et des hommes. C'est-à-dire que c'est un dialogue entre des initiatives personnelles et des organismes. En même temps, ce que vous montrez des méandres et des lenteurs et des freins de la justice internationale fait très très peur.
Oui, complètement. Moi-même, j'ai parfois été découragée, voire déçue, parce que par les obstacles que l'on met face à la justice pénale internationale, notamment puisqu'elle est extrêmement diplomatique et pas forcément indépendante. Mais il est vrai aussi que cet espoir est revenu assez vite, puisque ces hommes-là, finalement, travaillent sur le long terme. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils enquêtent à l'heure où on parle. Ils sont sur place. Ils sont anonymes. On parlait des magistrats, des militants, mais il y a aussi des docteurs, des boulangers qui sont devenus des chasseurs de preuves parce qu'ils sont engagés, finalement, dans cette collecte de preuves.
Alors, quand vous dites le long terme, parce que la particularité de la justice internationale, c'est que les faits sont imprescriptibles.
Exactement.
Imprescriptibles, pardonnez-moi. Et que toutes les victimes et leurs familles peuvent s'accrocher au moins à ça.
Même alors, si c'est difficile.
Forcément, vous, grand reporter, vous dites mon statut de journaliste me permet aujourd'hui de témoigner, témoigner à la fois du chagrin d'avoir perdu un être que vous aimiez profondément, et en même temps, témoigner de ce que votre métier vous a conduit à avoir sur le terrain. Et donc, à travers les chasseurs de preuves, vous racontez tout ce qu'il faut aujourd'hui documenter, c'est-à-dire les exécutions, les tortures en prison,
les viols,
les cachots de l'enfer du régime, et aussi les barbaries du califat, les taupes au cœur de Daesh, qu'il est finalement relativement...
Comme des agents un peu infiltrés.
Infiltrés, assez faciles à retourner. Il y a un long chapitre que moi j'ai eu beaucoup de mal à lire, Émilie Blacher, consacré à l'esclavage sexuel des femmes yézidis. Long reportage que vous aviez d'ailleurs publié dans Paris Match, qu'on retrouve aujourd'hui dans votre livre. C'est extrêmement dur. Ce chapitre est extrêmement dur à lire.
Oui, c'est un chapitre extrêmement dur à lire, mais j'ai voulu évidemment en parler puisque le génocide des yézidis est quelque chose qui a touché le monde, qui a été extrêmement médiatique et qui aujourd'hui est peut-être qui sera peut-être le premier procès contre Daesh. Donc vraiment, moi, je tenais à rencontrer ces femmes, à ce qu'elles soient présentes dans mon livre, parce qu'elles m'ont vraiment raconté en détail ce qui leur était arrivé. Et malgré tout, elles gardent quand même espoir. Elles ont elles aussi espoir un jour que leurs bourreaux seront devant un tribunal. Et ça, je trouvais que c'était une belle leçon de vie. À relater.
Émilie Blacher, je le raconte parce que nous ne sommes pas à la télévision, mais nous sommes à la radio. Votre livre s'intitule « Une fleur sur les cadavres » et évidemment c'est extrêmement bouleversant puisque c'est la fin très brutale et très injuste d'une histoire d'amour, et puis c'est l'assassinat d'un journaliste. Et puis aujourd'hui vous publiez ce livre, voilà, je le raconte, vous êtes très enceinte et vous êtes très belle. Donc « Une fleur sur les cadavres », c'est que la vie continue aussi. Merci beaucoup d'être venue nous voir, et puis on continue de vous lire dans Paris Match en kiosque tous les jeudis.